Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, Marianne Paquette au micro. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M qui débute à l'instant. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, je vous parle de violence familiale et en ce sens, vous dire qu'au début du mois d'octobre, la Fondation du Grand Montréal rendait public un vaste rapport sur la santé des Montréalais intitulé Signes vitaux 2015 et on y apprenait que le taux de violence familiale dans le Grand Montréal, c'est-à-dire l'île et tous les alentours, était de 281,5 pour 100 000 habitants. Ça peut paraître un petit peu inconcret, là, mais juste pour peut-être vous ramener à la réalité, c'est inquiétant comme chiffre parce que c'est largement supérieur à ce que l'on observe dans d'autres grandes villes du Canada, entre autres à Toronto, 174,8, toujours pour 100 000 habitants, et à Vancouver, 159,6. Donc, demain, afin peut-être d'alimenter la réflexion, également continuer à faire de la prévention, la Fondation du Grand Montréal offrira un panel gratuit, ouvert au grand public, pour parler de ce qu'est la violence familiale. Et aujourd'hui, pour vous donner un avant-goût, je parlerai avec Melpa Kamateros, afin de comprendre aussi les impacts là, pour toute la famille. Elle est directrice exécutive de l'organisme Le Bouclier d'Athéna Services Familiaux. Et puis d'abord, eh ben, on connaît bien le syndrome du baby blues chez la femme, mais on en sait un petit peu moins sur la dépression prénatale des futurs papas. Et pourtant, il y a une étude assez récente qui révélait qu'environ 13 % des futurs papas présenteraient un taux élevé de symptômes dépressifs pendant la grossesse de leur conjointe. Et ça, c'est une étude qui a été menée par la docteure Déborah Dacosta, qui est chercheuse en épidémiologie du côté du Centre universitaire de santé McGill. Ça confirme, cette étude-là, l'importance de dépistage précoce de la dépression et aussi encore une fois de la prévention auprès des hommes qui vont devenir pères. J'en parle à l'instant avec Nancy Véro, elle qui est psychologue et consultante en santé périnatale du côté du Centre universitaire de santé McGill. Nancy Véro, bonjour.
Bonjour.
Je le répète, vous êtes psychologue, mais vous travaillez aussi dans l'équipe du docteur Dacosta.
Tout à fait.
Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a l'occasion de vous parler, Nancy Véro, sur la santé des pères, des futurs pères, qui est un domaine un petit peu négligé, j'ai l'impression, en santé mentale et même dans le secteur de recherche en général. On n'en tient pas beaucoup compte. Pourquoi cette récente étude?
Bien, tout à fait. C'est vrai que c'est pas les hommes, surtout dans le domaine de la périnatalité. Mm-hmm. C'est vrai que c'est pas un sujet, c'est pas la population qu'on ciblait. Ben nous, on s'est aperçu en fait que docteur Déborah Dacosta, elle, ça fait déjà plusieurs années qu'elle s'occupe de la santé mentale des femmes dans ce domaine-là. Puis on s'apercevait aussi quand même que les pères pouvaient aussi présenter des symptômes là, de dépression. Donc, on a aussi pris l'exemple de d'autres pays qui prenaient déjà, faisaient des études, dans le fond, sur les pères. Mm-hmm. Donc, le Canada, ça n'avait pas été vraiment étudié, mais ailleurs, ça pouvait se faire.
Je pense qu'au Japon, notamment, il y a une vaste étude là-dessus.
Entre autres, en Europe, c'est sûr qu'on a beaucoup là, d'études, en Angleterre, entre autres, à ce niveau-là. Mais c'est ça, au Canada, c'était très limité là, ce qu'on pouvait retrouver.
Comment ça s'est déroulé, cette étude-là?
Ça s'est déroulé, en fait, c'est vraiment, dans le fond, on recrutait là, des hommes là, sur l'île de Montréal. Ça pouvait se faire par l'entremise là, des cliniques périnatales, admettons les salles d'attente, bon, quand les femmes attendent pour avoir leur échographie. Puis par la suite, tout se déroulait en ligne, donc remplir les questionnaires et tout ça.
Mm-hmm. Donc, 622 hommes concernés par cette étude-là que vous avez interrogée au troisième trimestre de grossesse. Qu'est-ce que vous leur demandiez à ces hommes-là?
Bien, on évaluait, c'est sûr, comment la grossesse se passait. On évaluait plein de facteurs là, au niveau là, du soutien social. Est-ce qu'ils se sentaient soutenus? Mm-hmm. On évaluait entre autres les événements de stress dans leur vie, s'ils étaient satisfaits de leur relation de couple, plein de choses comme ça, leurs symptômes de dépression, là, effectivement, d'anxiété. Donc, c'était vraiment en général leur sommeil.
Oui, c'est ce que vous avez découvert. Mm-hmm. Hein?
Oui.
Donc, les hommes qui dorment moins sont peut-être plus sujets à développer des symptômes de dépression?
Bien, effectivement, c'est sûr que c'est toujours effectivement un facteur de risque. Donc, on ne dit pas que c'est une cause, mais ça les rendait plus à risque. Dans notre étude, c'était le facteur de risque le plus important. Donc, les hommes qui rapportaient d'avoir un sommeil moins bon, ça, c'est certain qu'eux étaient plus à risque de présenter là, les symptômes de dépression dans notre étude.
Moi, ce que je trouve intéressant, Nancy Véro, c'est le soutien social parce que la femme, son corps change. Hein? Donc, c'est très évident qu'elle porte un enfant, elle a des nausées ou d'autres soucis de santé. Donc, évidemment, on va lui poser des questions, on va vouloir l'encadrer, la soutenir, avoir de l'empathie envers elle. J'imagine que les hommes sont plus en retrait de ça et, évidemment, ont moins de soutien social.
Bien, c'est sûr que pour les hommes, c'est pas aussi facile parce que eux aussi attendent un enfant à même titre que la mère, sauf qu'effectivement, ils sont peut-être un peu plus dans l'ombre. Ils n'ont pas non plus déjà ce contact-là privilégié de la mère. Fait que c'est sûr qu'effectivement, c'est pas aussi facile pour eux. C'est sûr que le soutien social, pour les femmes aussi, on va le retrouver comme un facteur de risque. Les femmes qui sont moins soutenues, qui se sentent moins soutenues pendant leur grossesse ou la période postnatale, elles aussi sont plus à risque. Mais effectivement, pour les hommes, c'est comme s'ils étaient un peu plus dans l'ombre par rapport à la grossesse.
Et si leur conjointe propose également des symptômes dépressifs pendant sa grossesse ou après. Est-ce qu'ils sont justement peut-être plus touchés par ça? Est-ce que c'est un facteur de risque également?
Oui, c'est sûr que dans l'étude, on a fait comme une petite partie où on évaluait, puis c'était pas le plus grand des facteurs de risque, mais ça l'influençait quand même. C'est-à-dire que si la femme est déprimée ou présente des symptômes dépressifs aussi, c'est sûr que l'homme... Ça le met plus à risque d'être en dépression également.
Mm-hmm. Et il y a aussi tout le volet, et ça touche aussi les femmes, mais ce volet-là où on se dit attendre un enfant, c'est un événement joyeux. Mm-hmm. On associe ça à énormément de positivisme là, dans la vie d'une famille, mais ce n'est pas toujours le cas. On ne le vit pas toujours ainsi.
Non, parce que souvent, on associe beaucoup... dépression postnatale ou tout ce qui est grossesse, on l'associe beaucoup à la question hormonale. Mais en fait, attendre un enfant, c'est un gros changement là, dans une vie. Surtout là, l'étude, c'était un premier enfant. Donc, tout est nouveau. Effectivement, c'est quand même une période de stress, de joie, mais il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses à laquelle s'adapter. Les gens se demandent s'ils vont être à la hauteur. Donc, il y a beaucoup aussi d'inquiétudes qui ressortent dans cette période-là aussi.
Nancy Véro, le rôle du père a changé énormément dans les dernières années. On lui demande d'être plus présent, de prendre davantage de décisions dans l'éducation de son enfant. Est-ce que ça peut aussi occasionner du stress chez l'homme parce qu'il a peu de modèles encore?
Oui, bien, effectivement. C'est sûr que nous, on ne l'a pas étudié comme tel, mais on peut voir, bon, en clinique, entre autres, c'est sûr que les hommes étaient très, si on prend pour l'étude, étaient très contents là, de participer à une étude. Mm-hmm. Les hommes se sentent souvent dans l'ombre, pas assez impliqués, pas assez par le personnel, entre autres, admettons, à l'hôpital. Des fois, ils se sentent un peu à l'écart. Et les hommes, ils veulent s'impliquer davantage. Puis c'est sûr qu'effectivement, si on prend à l'époque, il y a plusieurs années, ou même pas si longtemps que ça, les hommes, c'est ça, s'impliquaient moins. C'était beaucoup la mère qui restait à la maison. Puis les rôles changent. Puis c'est sûr que je pense que ça ajoute une pression de vouloir être à la hauteur, de vouloir toute la confiance aussi d'être un modèle pour son enfant. C'est quand même une pression peut-être supplémentaire parce que les hommes sont peut-être plus conscients aussi.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez pu voir des différences selon l'âge des hommes interviewés ou encore leur statut socio-économique ou peut-être des antécédents de maladies mentales dans leur famille?
Pour ce qui est de l'âge, du statut socio-économique, on n'a pas vu de différence. C'est sûr qu'on les a tous regroupés, mais c'était quand même très proche en âge et en termes de statut. Il n'y avait pas... c'était pas aussi différent, mais pour ce qui est des antécédents, ça c'est certain que pour les hommes qui ont des antécédents en psychologie, c'était un facteur de risque. Donc que eux-mêmes avaient vécu, admettons, une dépression dans le passé ou que ce soit, ça c'est un facteur de risque qu'on va retrouver aussi pour d'autres populations.
Oui. Est-ce que l'on sait si l'on peut prévenir ces symptômes-là de dépression pendant la grossesse de la conjointe?
Bien, c'est sûr que prévenir, bon, déjà de faire des études, déjà de passer le message déjà aux professionnels de la santé, que déjà, on s'intéresse à la mère, mais qu'on a souci d'intégrer plus les pères dans les suivis. Tu sais, quand l'infirmière visite après coup, mais elle va demander à la mère si ça va bien, bien qu'on se soucie aussi du père, déjà, ça, c'est déjà beaucoup. Que la population soit au courant, tu sais, que les hommes, c'est correct, dans le sens qu'eux aussi, ils ont leur place, puis si ça va pas, ils peuvent consulter. Puis pour ce qui est de la prévention, bon, c'est sûr que on veut quand même, il y a toute une autre partie là, de l'étude là, qu'on voudrait mettre sur pied. Mais il y a un site Internet qui est sur pied en ce moment. Donc, on voudrait passer la prévention aussi par l'entremise d'un site Internet là, pour les hommes.
Oui, le site Internet s'appelle ltdads.ca. Il est subventionné par Movember, Nancy Véro, mais il n'est pas encore en ligne.
Non, c'est vraiment en développement, là, ce site-là, parce qu'on veut en faire une étude pilote. On veut s'assurer que ce soit quand même un site pas seulement qui va donner de l'information, mais aussi qui aura un but là, de promouvoir la santé mentale. Donc, on veut voir justement si les hommes qui utilisent ce site-là, il y a une amélioration au niveau de leurs symptômes de dépression, d'anxiété, de stress, au niveau de leurs sentiments aussi de confiance dans leur rôle de parent.
Tout le mois de novembre, Nancy, j'ai fait des entrevues sur la santé des hommes, que ce soit santé physique ou santé mentale, avec différents spécialistes. Le mois de novembre s'achève aujourd'hui, là, se termine aujourd'hui, donc c'est la dernière entrevue. Mais ce que l'on a pu découvrir, c'est que les hommes ont souvent moins tendance à demander de l'aide, à les consulter, à exprimer leurs émotions. C'est encore vrai en 2015 et il y a des études pour le prouver. Ça aussi, c'est un facteur de risque si les hommes hésitent à aller consulter.
Tout à fait, oui, parce que nous aussi, on n'a pas publié ces résultats-là, mais on l'a gardé comme plus à l'interne pour voir justement est-ce que c'est pertinent d'offrir un site Internet. Puis effectivement, les hommes, on voyait par exemple que les hommes pouvaient ressentir le besoin de parler, mais n'allaient pas demander de l'aide ou consulter un professionnel de la santé pour diverses raisons, que ce soit qu'il était trop occupé, qu'il y avait une question de coût. Donc, il pouvait énumérer un paquet de raisons. Fait que c'est sûr que le site Internet, c'est toujours une question, c'est très accessible, il n'y a pas de coût. C'est sûr que c'est pas comme être avec un professionnel directement dans un bureau, mais en même temps, il y a toute la question aussi où c'est pas stigmatisant. Donc, il y a quelque chose qui est très accessible là-dedans.
Il y a un côté confidentiel aussi, à quelque part. On peut le faire chez soi et on n'a pas besoin d'en parler. J'imagine aussi que chez l'homme, il y a ce désir-là de demeurer le pilier de famille. Si la conjointe vit également certains symptômes, que ce soit pendant ou après l'accouchement, on n'a pas envie d'aller dire au médecin ou à la famille, ben moi aussi, je vais pas bien.
Exact. C'est sûr qu'on a toujours ce modèle-là, cette idée-là de l'homme, tu sais, qui est le pilier. C'est vrai que c'est pas facile pour eux, mais justement, on veut aussi essayer de briser cette image-là pour leur permettre d'aller chercher de l'aide, qu'eux aussi, la femme peut très bien aller, puis c'est l'homme, tu sais, pour qui c'est difficile, puis qui ça demande plus d'adaptation, la période, admettons, postnatale. Donc, effectivement, c'est sûr que la question là, du pilier, c'est pas facile toujours pour les hommes de se dire, ben regarde, moi j'ai besoin d'aide, puis...
Ce qui pourrait inciter les hommes à aller consulter, je pense, Nancy, c'est que ça semble être prouvé qu'il y a des conséquences sur le développement de l'enfant.
Oui, effectivement, c'est sûr. Et pour la mère et pour l'homme, c'est encore pire si les deux parents là, ont des symptômes de dépression. C'est sûr qu'on parle de dépression quand même significative. Mais c'est sûr que, bon, ça, il y a beaucoup d'études qui appuient qu'il y a des conséquences. La dépression a des conséquences sur le développement de l'enfant, que ce soit sur le plan cognitif, du langage, sur le plan affectif, émotionnel. Ça a des conséquences aussi sur les relations de couple. T'sais, on sait que déjà, postnatal, c'est très difficile, l'adaptation, le couple. Fait que c'est certain que, oui, les études documentent très bien cet aspect-là, qu'il y a des conséquences à plusieurs niveaux.
Maintenant, je me mets dans la peau, soit d'une famille, l'entourage de ces hommes-là. Qu'est-ce qui peut nous inquiéter comme comportement?
Ben, c'est sûr qu'on va voir, des fois, bon, la dépression, c'est sûr qu'on va observer beaucoup la tristesse et le manque de motivation comme symptômes principaux. Chez l'homme, admettons, la tristesse, ça pourrait être l'irritabilité. Donc, faut voir comme un changement dans le comportement habituel. Un homme qui est plus irritable, qui a plus envie d'être en retrait, qui désinvestit le projet, qui n'a pas envie d'investir, admettons, la grossesse. Mm-hmm. C'est sûr que, bon, s'il y a des idées suicidaires, ça, c'est vraiment plus avancé. La dépression aussi, on peut voir, bon, des problèmes de concentration, entre autres, avoir du mal, tu sais, à occuper ses fonctions comme à l'habitude. Ça, c'est toutes des choses qu'on va observer.
Mm-hmm. Et, bon, c'est sûr que des idées suicidaires, c'est de l'urgence, là.
Mm-hmm. Oui.
Sinon, bon, on consulte vers qui on peut aller pour demander de l'aide.
Bien, c'est sûr qu'on peut parler, bon, à notre médecin de famille, déjà, qui, lui, peut nous situer, nous faire des références, tout dépendant comment ça se passe. C'est sûr qu'on peut aller aussi sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, se trouver un thérapeute, un psychologue ou un psychothérapeute reconnu dans le traitement de la dépression.
Mm-hmm. Et aussi, j'encouragerais les hommes qui nous écoutent à en parler autour
oui.
d'eux, parce que, bon, on n'a peut-être pas envie d'en parler autour de la bière d'après-match ou pendant nos activités sportives au boulot avec les collègues, mais maintenant, on sait que 13 % des
oui.
hommes présenteraient des symptômes pendant la grossesse de leur conjointe. Oui. Donc, vous n'êtes pas seul, il faut
non.
le rappeler, ça.
Non, effectivement. Puis je pense que les hommes seraient surpris, justement, si peut-être on ose en parler entre amis. Justement, le 13% d'hommes qui présentaient des symptômes dépressifs, effectivement, c'est quand même une bonne partie des gens, des hommes, donc ils sont pas seuls.
Mm-hmm. Maintenant, il y aura un deuxième volet à cette étude-là, si je me trompe pas?
Oui, bien, l'étude était déjà, d'une part, faite pour, on appelle ça une étude prospective, c'est-à-dire qu'on suivait les hommes pendant la grossesse de leur conjointe, mais aussi comme dans l'année postnatale. Donc là, on a présenté la première partie qui était pendant la grossesse, mais va venir aussi des résultats pour ce qui est de la période postnatale.
Donc, vous allez reprendre le processus avec les mêmes hommes?
En gros, c'est qu'on a déjà des données.
Okay.
Donc, quand on lance une étude, souvent, on va vraiment là, la partir d'un coup puis les suivre. Fait que ces hommes-là vont se retrouver aussi, effectivement, là, dans l'autre partie, à moins qu'ils aient décidé de ne pas poursuivre l'étude. Ou,
Et pour la suite, DeltiDans?
Oui, bien là, c'est ça. Le site est pas mal complet. On est vraiment à le stade étude pilote, donc avec un petit échantillon. Puis par la suite, si on voit là qu'il y a quand même des résultats et tout, on va faire une plus grande étude pour s'assurer, comme je disais tout à l'heure, que c'est un site Internet qui amène de l'information, mais qui a un potentiel aussi d'améliorer les symptômes de dépression et de stress.
Eh bien, Nancy Véraud, je le rappelle, vous êtes psychologue et consultante en santé périnatale pour le Centre universitaire de santé McGill. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vusevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Melpa Kamateros, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice exécutive de l'organisme Le Bouclier d'Athéna Services Familiaux et vous serez l'une des panélistes demain pour cette discussion qui est lancée par la Fondation du Grand Montréal. La violence familiale, c'est le temps d'en parler. Je le rappelle, une discussion gratuite de 10 à midi. Pour débuter, Melpa, ce qui est moins évident pour moi, c'est quelle est la différence entre la violence familiale et la violence conjugale?
Alors, la violence familiale implique la violence qui a été faite dans la famille, qui peut être faite par des différents membres dans la famille. Par exemple, frère contre sœur, jeune adulte contre leurs parents âgés, parents contre leur enfant, etc. La violence entre époux dans les relations intimes peut être tombée aussi dans cette catégorie, mais on préfère de l'extrapoler et de le catégoriser comme étant deux violences conjugales, qui est que de violence qui est exercée dans les relations intimes.
Donc, ce que je me rends compte, c'est que la violence familiale, ça peut venir de plusieurs membres de la famille.
Oui. Et parfois, ça peut arriver aussi dans le cas de violence basée à l'honneur qu'il y a aussi de la violence familiale et un chevauchement aussi de la violence conjugale. Mais pour faciliter notre conversation, par exemple, on peut discuter de la violence conjugale parce que je pense que le but de la conférence de demain, c'est de parler concernant la violence qui existe dans les relations intimes.
Vous avez parlé de crime d'honneur, Melpa, mais pour vous, c'est important de rappeler que la violence conjugale, ça peut être dans tous les milieux.
Oh oui, peu importe, et respectif des formations académiques, si on est membre d'une communauté culturelle ou de la société du QI, peu importe leurs croyances religieuses, c'est quelque chose qui était appris, c'est un comportement violent qui était appris, souvent pendant le temps où l'adulte était jeune, un jeune enfant qui, lui aussi ou elle aussi, elle a vécu tout ce type de violence dans leur famille.
Donc, c'est un facteur de risque d'avoir vécu ça dans l'enfance.
Oui. Ça, c'est sûr.
Oui.
Et d'interpréter ce type de violence comme une violence qui était comme un comportement normal.
Oui.
OK? Mm-hmm. Alors, oui, ma mère, elle a eu ce type de comportement violent par mon papa. Alors, elle avait toléré. Alors, moi aussi, il faut que je le tolère. Mm-hmm. Ou de l'autre côté, mon papa, il a toujours frappé maman et elle n'a dit jamais rien contre ce type de comportement. Alors, pour moi, c'est quelque chose de normal de répéter dans ma famille.
Oui. Et pourtant, il y a beaucoup d'impact sur les membres d'une famille.
Beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que on peut penser que c'est la femme qui était le plus affectée parce que en termes de violence physique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de violence qui était exercée envers elle, mais aussi de post-traumatic stress, par exemple de choc post-traumatique. Alors, c'est bien évident pour une femme, mais pour les enfants qui sont souvent exposés à la violence conjugale dans leur famille, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre quand ils étaient jeunes et qu'ils ne peuvent pas le régler après quand ils sont plus grandes. Alors, et chez nous, on travaille beaucoup avec les femmes, les mamans, mais aussi avec les enfants afin de les aider aussi dans leur expérience de violence conjugale.
Oui, parce que probablement beaucoup d'impact sur leur développement, sur toute la construction de l'être adulte qu'ils deviendront, sur le développement à l'école aussi, j'imagine.
Oui, oui, les enfants aussi peuvent manifester des effets dévastateurs parmi eux, par exemple l'instabilité émotive, ou sérieux problèmes de comportement. Ça peut inclure aussi, c'est ce que vous avez déjà mentionné, des problèmes d'apprentissage à l'école, etc.
Oui.
Et pour les enfants, il faut se souvenir que c'est très, très difficile pour les enfants de verbaliser. Verbaliser tout ça qu'ils ont vécu. Alors, nous, chez nous, on donne un programme qui s'appelle Thérapie d'art, où les enfants peuvent mettre dans une petite dessin leurs émotions, comment ils ont vu la situation de violence, parfois qu'ils se trouvent au milieu de cette expérience de violence. Alors, c'est très, très intéressant. Mais c'est ça, il ne faut pas travailler seulement avec les femmes, il faut essayer de travailler aussi avec les enfants. Mais je peux vous dire aussi, en termes de santé, ça peut arriver aussi que pour les abuseurs, pour les agresseurs, il y a souvent des problèmes de santé aussi qui étaient associés avec leur perte de contrôle, quand on se met en colère. On parle pour le cycle de violence, on parle pour un cycle qui se répète très souvent et parfois la dernière phase d'un cycle de violence, c'était le meurtre de la femme, les enfants et aussi le suicide de l'agresseur. Alors, il y en a des retombées partout.
Oui, et c'est important d'en parler. C'est un petit peu ce que veut faire la Fondation du Grand Montréal en proposant cette discussion. C'est une façon de faire de la prévention aussi, Melpa, j'imagine.
Mais nous, on croit beaucoup sur la prévention. En tout cas, nous avons développé un volet de département de sensibilisation depuis le début, depuis 1994. Et on fait chaque année des sessions de sensibilisation de prévention partout, aux écoles, dans les centres communautaires, partout, parce qu'on croit, beaucoup sur l'éducation des gens.
Oui.
Sur l'éducation. Et quand on parle, on pense qu'il y a aussi des personnes qui comprennent pas la langue. Il faut faire cette sensibilisation quand on peut, en langue maternelle. Ou il faut donner cette sensibilisation, cette éducation directement au cours de francisation. Alors ça, ça c'est un autre volet des choses qu'on fait aussi. Nous viendrons très souvent au cours de francisation pour donner des sessions sur la violence conjugale, sur le processus policier, sur les lois d'ici, même sur les ressources qui existent ici à Québec.
C'est important de le dire au bouclier d'Athéna, Melpin, vous faites de l'intervention dans 17 langues, si je me trompe pas.
Oui, presque. Ça peut parfois, on manque une langue parce qu'il y a un congé maternité avec l'intervenante ou notre interprète. Mais plus ou moins, c'est ça. Et nous avons aussi des outils d'intervention en plusieurs langues qu'on utilise avec les clientèles vulnérables quand les questions de langue se présentent.
Mm-hmm.
Mais ça, ce qui est important, c'était de souvenir qu'il faut donner des renseignements aux gens parce que sinon, nous n'avons pas une égalité d'accès aux informations de base. Alors, et on peut pas penser, on peut pas dire après, mais voilà, OK, pourquoi est-ce que c'est comme ça et pourquoi est-ce que les personnes n'avaient pas accédé aux bonnes ressources que nous avons? Simplement pourquoi? Parce que elles n'ont pas, elles ne connaissent pas de l'existence de ces ressources.
Oui,
elles ne connaissent pas des lois d'ici. Alors, nous, comme une société, je pense, nous avons une obligation d'essayer le plus possible de renseigner tous les gens concernant qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi les lois d'ici? Qu'est-ce qu'on peut offrir aux victimes et même aux abuseurs?
Oui, oui. Et ça fait partie des besoins des familles touchées par la violence familiale d'avoir de l'information. Et en terminant, vous parliez des abuseurs, des victimes. On a parlé beaucoup des femmes et des enfants, mais pas les hommes aussi, j'imagine, parfois peuvent être victimes de violences familiales.
Oui, ça peut arriver. Je pense que les dernières statistiques sont environ démontrent que les hommes peut-être 11%.
Quand même.
Il faut que je vous dise que parfois c'est pas très facile pour les hommes aussi de se verbaliser concernant la violence parce qu'il y a des questions de honte, etc.
Je vous arrête ici, Melpa, parce que le temps file et je veux absolument redire la date 1er décembre demain de 10 à midi à l'église anglicane. La violence familiale, c'est le temps d'en parler. On mettra toutes les informations sur le site du Canal M. Oui, Melpa Kamateros, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Bye.
Merci, Jean-Sébastien. Demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.